Qualifiée de politique étrangère, la politique promue par Mister Josep Borrell est un excès verbal qui décontextualise sa propre irrationalité, pour ne pas dire stupidité au sens sémantique du terme. Après avoir ignoré pendant des mois la réalité historique la plus élémentaire, Mister Borrell a déclaré du haut de sa chaire bruxelloise. Notre bien-être était basé sur l'énergie bon marché de la Russie. Il est évident qu'aujourd'hui nous devons chercher des sources d'énergie au sein de l'Europe, dans la mesure du possible, et ne pas échanger une dépendance contre une autre. La meilleure énergie est celle qui vient de l'intérieur de l'UE. Cette déclaration reconnaît une réalité qui existe depuis des décennies. Elle était à la base industrielle de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, connue comme CECA, qui à son tour, est à l'origine de l'UE. La structure économique créée par les pairs de la CECA fut fondée sur la nécessité de compter sur le soutien de l'industrie gazière russe pour le modèle européen de l'après-Seconde Guerre mondiale, et sur l'hypothèse que l'Union soviétique de l'époque était l'allié stratégique qui avait permis la défaite de l'armée allemande. Mister Borrell a rejeté et ignoré cette réalité lorsque, depuis son poste, il a affirmé que le gaz russe pouvait être remplacé en abaissant d'un ou deux degrés Celsius la température de la douche quotidienne. Non moins absurde est la prétention de remplacer le gaz russe par du gaz liquéfié fractal en provenance des États-Unis, pour laquelle Mister Borrell a le soutien du vice-roi d'Espagne, Pedro Sanchez. Sans entrer dans l'analyse de la structure de raffinage européenne, et dans un souci de clarté de l'explication, il suffit d'analyser ce qui suit. L'Europe occidentale aurait besoin d'environ 580 méthaniers pour garantir la ligne logistique d'approvisionnement des États-Unis vers l'Europe. Cependant, au moment de la brillante découverte de Mister Borrell, il y avait environ 180 méthaniers de cette taille dans le monde, dont la plupart étaient et sont liés à la fourniture de gaz russe au Japon et à la Chine dans le cadre de contrats à long terme. La construction des méthaniers manquants prendrait 10 à 15 ans au chantier disponible, ce qui a permis au grand chantier naval de Shanghai d'avoir une charge de travail de plus de 12 ans en raison du délire de cette politique. L'ignorance des dirigeants de l'UE a fait tomber des millions de citoyens européens et en dehors de la zone euro sous le seuil de pauvreté. Elle a également provoqué un phénomène économique sans solution à court et moyen terme, à savoir la désagrégation des marchés et des lignes d'approvisionnement. Pour comprendre ce phénomène, il faut considérer que le gaz est une matière première de base pour l'industrie chimique et lourde dans le monde entier. Mister Borrell restera dans l'histoire comme le fonctionnaire qui a réussi à fermer le plus grand nombre d'usines de base. Aluminium, acier, Portland, ciment, pétrochimie, titane et aciers spéciaux retransformés, pour n'en citer que quelques-unes. Et tout ceci sans qu'il y ait un conflit armé généralisé et dans le but de détruire les monopoles naturels. La désagrégation des processus industriels provoque à elle seule des effets incontrôlables sur les marchés, détruisant les chaînes logistiques et la structure industrielle et par conséquent, l'économie de coût évolutive de tout système industriel. En d'autres termes, tout est concerné. Des boulangeries artisanales, aux petites et moyennes industries mécaniques et électroniques, en passant par tout produit dont les coûts incluent le prix de l'énergie. Il faut remonter à de nombreuses années dans l'histoire pour trouver un phénomène similaire, qui ne s'est même pas produit pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. La Russie dispose d'un monopole naturel sur de nombreuses matières premières qui sont, par définition, irremplaçables. L'effet des monopoles naturels est connu en économie classique depuis au moins le XVIIIe siècle, bien que les Romains aient déjà contrôlé les matières premières de base dans le but de maîtriser l'inflation des prix des denrées alimentaires et la production militaire. En effet, la perturbation de ces approvisionnements pour diverses raisons est l'une des composantes de leur disparition en tant qu'empire. Sous la conception de Mister Borrell selon laquelle il est possible de détruire les monopoles naturels se cachent l'arrogance et le racisme. Dans la première moitié du XXe siècle, l'Allemagne parvint à la même conclusion et comme solution mise en œuvre la doctrine raciale qui, une fois la Russie militairement occupée, favorisa l'extermination de la population slave et sa désintégration en centaines de petites nations fondées sur la race. Dans son délire, cette politique devait faire de même avec la Chine en vue de l'invasion des États-Unis à partir de la Mandchourie et de la mer de Chine orientale, et ce par le biais de la même politique raciale et de l'extermination d'au moins 300 millions de Chinois. Le Japon tenta une solution similaire avec son invasion de la Mandchourie et le massacre et l'extermination de la population chinoise. Cette idéologie qui sous-tend la politique actuelle de la soi-disant Europe occidentale, dirigée par Mister Borrell et la germanique Madame Ursula von der Leyen, favorise la confrontation avec les peuples slaves, d'Asie centrale, chinois, perses et indiens, et ils font tout cela depuis un poste administratif à Bruxelles. Aucun empereur romain ne fut aussi audacieux. Cet aveuglement irrationnel a favorisé la descente aux enfers de la pauvreté énergétique d'une partie importante de la population active et pauvre de la zone euro et d'autres parties du monde. La guerre en Ukraine suit le même schéma militaire que celui que le général Reinhard Jolan conçut pour le monde slave. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jolan sauva la vie en échange des fichiers de contre-renseignement allemands que lui et ses subordonnés militaires cachèrent à la fin de la guerre pour ensuite les remettre au gouvernement américain. Cette collaboration le mena à former des fonctionnaires du département d'État et des cadres intellectuels du gouvernement américain dans le plus grand secret. Sur cette base, la politique de contre-intelligence fut conçue pour faire face à une invasion russe en Europe. Toute cette méga-structure était basée sur l'utilisation du surplus et des restes des troupes raciales allemandes que le général Jolan avait organisées des années auparavant. L'organisation Jolan, formée avant l'accession de Jolan à la direction des services de renseignement de la République fédérale d'Allemagne, fut l'armature politico-militaire qui organisa et structura les restes du national-socialisme et du fascisme afin de promouvoir une avant-garde militaire pour contrer une éventuelle invasion russe en Europe occidentale. Cela permettrait de créer une structure militaire irrégulière à l'Est, c'est-à-dire, dans l'arrière-garde des Slaves et des peuples d'Asie centrale. Les concepteurs de cette politique se sont appuyés sur les fichiers utilisés par les troupes allemandes d'occupation et de contre-renseignement de la Wehrmacht et des SS, y compris les groupes d'intervention Einsatzgruppen. C'est la connaissance de cette réalité qui conduisit la France de Gaulle à sa politique de la chaise vide au Conseil de l'OTAN et à la décision de ne pas intégrer la France dans la structure militaire de l'Alliance Atlantique. Le héros national ukrainien Stepan Bandera ne fut rien de plus qu'un pion dans la doctrine de contre-renseignement du général Jolan, une doctrine visant à obtenir l'accès au pétrole caucasien et aux matières premières du Donbass telles que le charbon. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky est aujourd'hui l'héritier autoproclamé de Stepan Bandera et le produit d'une interprétation raciale de l'histoire slave que Otto Adolf Eichmann aurait approuvée. Les conseils juifs polonais avaient une matrice similaire. Mystère Joseph Borrell entraînera dans sa petite histoire le plus grand désastre de l'Union européenne depuis la création de la CK.
Vous venez d'écouter un article de Gregorio Dionis, président de l'Equiponiscor, publié le 24 novembre 2022. Vous trouverez plus d'informations sur gaz, pétrole et électricité, ainsi que sur le conflit en Ukraine, sur les pages consacrées à ces dossiers sur le site internet de documentation d'Equiponiscor. Ce programme a été produit par Radio Niscor dans nos studios en Belgique le 2 mai 2023.